Bonjour à tous. Je suis ravi de vous revoir tous. Plus la responsabilité ou la puissance dont dispose une personne est grande, plus la préparation dont elle a besoin est importante. Aucune compagnie aérienne censée ne confierait à un pilote inexpérimenté la possibilité ou la capacité de piloter un avion transportant des centaines de passagers. On n'attendrait jamais d'une nouvelle recrue militaire qu'elle mène de vastes armées sur le champ de bataille, au cœur des combats. Une personne non formée, une personne venue de la rue, ne se verrait pas confier la responsabilité de faire fonctionner un réacteur nucléaire. Imaginez les conséquences si quelque chose venait à mal tourner. Les astronautes s'entraînent sans relâche avant de pouvoir monter à bord d'un vaisseau spatial, et encore moins s'envoler dans l'espace. Les pilotes s'entraînent sur des simulateurs. Quant aux chefs militaires, leurs responsabilités s'accroissent progressivement à mesure qu'ils gravissent les échelons. Les personnes à qui l'on confie des équipements puissants doivent d'abord prouver qu'elles possèdent les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour les utiliser en toute sécurité. La question n'est donc pas de savoir si cette personne peut avoir accès au pouvoir. La question la plus importante est de savoir si l'on peut lui faire confiance pour exercer ou détenir ce pouvoir. Mes frères, je vais vous poser une question à tous. Peut-on actuellement vous confier le pouvoir sur l'univers? C'est une question intéressante. C'est en réalité une question qui n'est pas seulement un conte de fées, une fiction ou un scénario hollywoodien. Nous savons tous que notre avenir réside dans le fait d'avoir le pouvoir sur l'univers. Je vous le demande donc à nouveau, mes frères, peut-on vous confier le pouvoir sur l'univers? Ouvrez vos Bibles au chapitre 2 de l'Apocalypse, chapitre 2 de l'Apocalypse. Il y a tant d'écrits dans le livre de l'Apocalypse, tant de choses, dont certaines seraient difficiles à croire si elles ne figuraient pas dans la Bible. On s'interrogerait, mais dans l'Apocalypse 2, nous allons nous arrêter au verset 26. Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations, et il les régnera d'une verge de fer. Nous voyons donc tout d'abord qu'il est dit, celui qui vaincra. C'est donc la première condition, et vaincre implique de garder les œuvres jusqu'à la fin. Mais il est dit, à celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Dieu ne donne donc pas d'abord le pouvoir pour ensuite observer comment nous nous en servons, ni il nous donne d'abord le pouvoir sur les nations en espérant que nous vainquions par la suite. Il est dit ici que nous devons d'abord vaincre. La victoire précède le pouvoir. Revenons maintenant à notre époque. En quoi le fait que je maîtrise mon tempérament, ou que vous maîtrisiez le vôtre, a-t-il un rapport avec le fait de gouverner des nations? Quel est le rapport entre le fait de vaincre l'orgueil et le fait d'exercer une autorité future? Pourquoi Dieu se soucie-t-il de savoir si nous vainquons l'égoïsme, la convoitise, le découragement, la peur, la rancœur, l'impatience ou d'autres mauvaises habitudes? Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à tout cela? Nous allons tous finir par être transformés en êtres spirituels. En quoi est-ce important que nous vainquions ces choses dans la chair aujourd'hui? Pourquoi exiger une vie entière de lutte, de repentance, de croissance, de chute et de remontée? Pourquoi tout cela est-il lié et, pour résumer, associé au fait de vaincre en vue d'un futur règne? Eh bien, mes frères, il ne devrait pas être difficile de comprendre que Dieu exige de nous que nous vainquions, car vaincre nous aide à développer ce dont nous avons besoin pour assumer la responsabilité de régner à l'avenir. Et c'est là tout l'objet de ce message d'aujourd'hui. Vaincre, c'est s'entraîner à exercer le pouvoir. Vaincre, c'est s'entraîner à exercer le pouvoir. Nous allons examiner ce que signifie vaincre. Nous avons tous entendu cette expression, Elle nous est familière. C'est en quelque sorte, sa signification est en quelque sorte inhérente au mot lui-même, mais que signifie-t-elle exactement? Et que devons-nous vaincre? Pourquoi Dieu exige-t-il de nous que nous vainquions? Comment Christ a-t-il vaincu? Nous savons tous qu'il a bel et bien vaincu. Et surtout, comment vainquons-nous? Comment y parvenons-nous? Nous le savons, et nous voyons que cela est lié à la souveraineté, mais comment triomphe-t-on? Que signifie donc triompher? C'est un mot très simple. Il n'est pas difficile à comprendre, mais triompher signifie conquérir, dominer, l'emporter, remporter la victoire. Ainsi, si vous triomphez de quelque chose, vous l'avez conquis, vous l'avez maîtrisé, vous avez pris le dessus sur lui, vous avez été déclaré ou reconnu vainqueur. Ce terme est lié à un mot grec qui signifie nikao, nikao. Et ce mot grec a sensiblement le même sens, conquérir, l'emporter ou remporter la victoire. Voici l'essentiel, vous ne pouvez surmonter quelque chose que si cette chose s'oppose à vous ou vous résiste. Le fait de surmonter implique donc une résistance. Quelque chose doit s'opposer à vous. Si je descendais de la scène et me rendais au fond de la salle, je ne dirais pas que j'ai surmonté le fait de marcher jusqu'au fond de la salle. À moins qu'un déplaceur ne se mette en travers de mon chemin et ne m'empêche d'atteindre le fond de la salle, je n'aurais rien surmonté. J'aurais simplement marché jusqu'au fond de la salle. Personne ne s'exprimerait ainsi. Il n'y avait aucune opposition. Rien n'a entravé ma progression ni ma capacité à accomplir cela. Ainsi, surmonter suppose qu'il y ait un adversaire, une force qui me retient ou un obstacle qui m'empêche d'accomplir ce que j'essaie de réaliser. Ouvrez votre Bible au chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Ce que j'apprécie chez Dieu, dans sa parole et dans le fait d'être chrétien, c'est que certaines choses sont difficiles à comprendre, mais dans l'ensemble, le christianisme est très simple. C'est très simple, et ce dont nous parlons aujourd'hui, cette idée de vaincre, est une notion très simple à comprendre. Or, vaincre en soi n'est pas facile, mais c'est facile à comprendre. Romains, chapitre 12. Et nous allons lire ici un verset qui peut sembler un peu différent maintenant que nous nous concentrons sur le mot « vaincre ». Romains, chapitre 12, verset 21. Romains 12, 21. Il est dit « Ne vous laissez pas vaincre par le mal ». Dans ce cas précis, cela signifie « Ne laissez pas le mal vous vaincre, mais que faire à la place ?» Vainquez le mal par le bien. Utilisez donc le bien. Eh bien, tout d'abord, le mal s'oppose à nous. Ces difficultés qui accompagnent le mal s'opposent à nous, et il arrive que le mal l'emporte. Il peut s'agir d'une force très puissante, mais ce verset nous dit ici de ne pas nous laisser vaincre par le mal. Ne laissez pas le mal prévaloir. Au contraire, triomphez du mal par le bien. Utilisez le bien pour vaincre le mal. L'un ou l'autre doit l'emporter, et il est dit ici que le bien doit l'emporter sur le mal. C'est très facile à comprendre. Revenons au chapitre 3 de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. La Bible insiste à plusieurs reprises sur le fait de vaincre. Ce n'est pas une expression ou un mot sans importance. Ce n'est pas quelque chose que l'on mentionne en passant, du genre « au fait ». Nous avons déjà vu que cela était lié au fait de régner sur les nations. Apocalypse 3, 21. Une référence écrite aux églises. Donc manifestement une référence directe à nous tous. Apocalypse 3, 21. Dit « à celui qui, fait quoi ? Vaincra ». À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Nous voyons donc une fois de plus que la victoire est liée à la souveraineté future. À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Il est donc évident que vous avez dû résister à quelque chose ou remporter la victoire sur quelque chose pour vous retrouver sur le trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu. Mais qui parle ici? C'est Jésus-Christ, qui a lui aussi vaincu, et qui s'est assis avec le Père sur son trône. Christ dit donc, « Écoutez, je veux que vous suiviez le chemin que j'ai moi-même parcouru. J'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Je veux que vous fassiez de même, que vous vainquiez, afin de pouvoir vous asseoir avec moi sur mon trône. » Ainsi, mes frères, si nous espérons occuper des trônes, recevoir des couronnes, exercer une autorité, nous devons vaincre. Et Christ ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'était pas disposé à faire lui-même, ou qu'il n'a pas réussi à accomplir. La victoire est omniprésente. Prenons quelques exemples. Dans Apocalypse 2, 7, il est dit « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra mangera de l'arbre de vie. » Verset 11. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne subira pas le mal de la seconde mort. » Verset 17. « Que celui qui a des oreilles entende, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée. » Verset 26. « Et celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres, nous avons lu cela un peu plus tôt, recevra autorité sur les nations. » Verset 3, ou plutôt, excusez-moi, chapitre 3, verset 5. « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. » Verset 12 du chapitre 3, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Verset 21. Chapitre 3, « À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, de même que moi-même j'ai vaincu et que je suis assis avec mon Père sur son trône. » Cette répétition, mes frères, ne doit pas passer inaperçue. Ce n'est pas une erreur. Dieu le Père, Jésus-Christ, ont directement lié la victoire à la récompense, à l'autorité future, au règne, à la vie éternelle. Tout cela est lié à la victoire. La victoire est intimement liée. Elle fait partie de notre préparation à nos futures responsabilités. Alors, que vainquons-nous? Que devons-nous vaincre? Que sommes-nous en train de vaincre? Eh bien, pour l'expliquer, je vais revenir sur un concept familier, quelque chose qui devrait vous sembler très familier. Dès que je l'aurai dit, beaucoup d'entre vous s'en souviendront, car vous l'avez entendu lorsque vous vous prépariez au baptême. Que vainquons-nous? Eh bien, tout d'abord, vous savez, rappelez-vous que vaincre, c'est surmonter la résistance à quelque chose qui s'oppose à nous. Nous nous vainquons nous-mêmes. Ouvrez vos Bibles au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Nous nous vainquons nous-mêmes. Chapitre 7 de l'Épître aux Romains, nous allons aborder ce passage dans un ordre légèrement différent. Nous commencerons par soi. Romains, chapitre 7, verset 18. Romains 7, 18. Il est écrit, « Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite rien de bon. » Paul dit donc qu'il n'y a rien de bon dans la chair. La chair est quelque chose qui s'oppose assurément à nous. Car le vouloir est présent en moi, mais je ne trouve pas comment accomplir ce qui est bon. Aussi difficile que cela soit, ce qui rend la chose difficile, c'est que la chair s'oppose à moi. Je sais ce qu'il faut faire, mais c'est tellement difficile de le faire. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Nous voyons donc cette force opposée, ce mal, cette chair qui s'oppose à nous, qui nous résiste, qui nous rend la vie difficile. Paul savait, il savait ce qu'il fallait faire. Frères et sœurs, nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons entendu des sermons, nous avons lu des articles, nous avons été attentifs. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous voulons faire ce qui est juste. Nous voulons prendre la bonne décision. Pensez à cette faiblesse contre laquelle vous luttez, et aucun d'entre nous ne lutte contre une seule faiblesse. Nous avons tous des faiblesses. Mais pensez à cette difficulté, à cette habitude que vous avez beaucoup de mal à surmonter. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous voulez faire ce qui est juste, mais cette chair, cette force qui est en vous, rend la tâche très difficile. C'est comme une attraction, quelque chose qui vous pousse à faire ce que vous savez ne pas devoir faire. J'ai constaté, mes frères, qu'il est tellement plus facile de pécher que de faire ce qui est juste. Je ne vous ai pas dit d'aller pécher. Je dis simplement ce que nous savons tous. Il est tellement plus facile de faire le mal que de faire le bien. Et selon cette faiblesse, cette difficulté est encore plus grande. Revenons à l'Épître aux Romains, verset 23, toujours dans le chapitre 7. Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui lutte contre la loi de mon esprit. Ce mot « lutte », c'est une guerre, mes frères. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il est tellement plus facile de pécher et de faire le mal, de succomber à la force et à la difficulté du péché, que de s'y opposer et de faire le bien. Oh, misérable que je suis! Imaginez que vous parliez de vous-même et que vous vous considériez comme misérable. Nous sommes tous passés par là. Qui me délivrera de ce corps de mort? Parfois, mes frères, nous avons simplement envie d'abandonner et de lâcher prise. À quoi bon, après tout? Oh, quel misérable que je suis! Mes frères, c'est une bataille. Vaincre le péché est une bataille. C'est difficile. Il ne s'agit pas simplement de quitter la scène et de se diriger vers le fond de la salle. C'est très difficile. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Que devons-nous vaincre? Nous-mêmes. Nous-mêmes. Galates, chapitre 5, verset 17. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous voyons ici ces deux forces très puissantes. La chair est très puissante. L'esprit est très puissant. Il s'agit ici, bien sûr, du Saint-Esprit. Poursuivons, l'esprit s'oppose à la chair. L'un s'oppose à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. On peut donc considérer que l'esprit et la chair ne peuvent pas occuper le même espace. L'un l'emportera sur l'autre. Bon sang, que cela fait du bien quand on fait ce qu'il faut. Quand l'Esprit de Dieu nous conduit à faire une certaine chose, et que nous y parvenons, là, c'est vraiment un sentiment formidable. Mais c'est tout le contraire lorsque nous succombons à la chair. Lorsque nous cédons à la chair, ce n'est pas agréable. Ce conflit intérieur, mes frères et sœurs. Que veut Dieu? Par opposition à ce que veut notre nature humaine, parfois, la personne la plus difficile à surmonter, c'est vous-même. Vous êtes toujours avec vous-même. Vous n'êtes jamais en dehors de vous-même. Le moi est toujours là. Et croyez-moi, la nature humaine, le cœur, est trompeur par-dessus tout, désespérément méchant. C'est très difficile. Nous sommes avec nous-mêmes chaque jour, mes frères. Nous devons gérer notre réaction lorsque quelqu'un nous corrige. Un patron nous corrige au travail, et nous en gardons de la rancœur. Comment osez-vous me dire quoi faire? Un pasteur nous corrige. Comment osez-vous me dire quoi faire? Vous ne comprenez pas. Vous ne vivez pas ma vie. Vous n'êtes pas parfait. Pourquoi me corrigez-vous? Nous luttons contre notre propre colère lorsque nous sommes fatigués. Nous n'avons pas beaucoup dormi, et nous sommes irritables. Nous sommes irritables. Nous sommes brusques avec les autres. Nous avons des pensées peu flatteuses lorsque les gens nous offensent. De l'orgueil lorsque quelqu'un d'autre est mis en avant à notre place. Nous ne voulons pas admettre ces choses, mes frères, mais nous luttons contre elles. De l'égoïsme lorsque quelqu'un nous dérange. Lorsque nous remettons les choses à plus tard, nous sommes envieux. Ces choses ne disparaissent pas simplement parce que vous avez été baptisé et que, les mains posées sur votre tête, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes tous découragés. Nous voulons nous justifier. Eh bien, voilà pourquoi je l'ai fait. Nous trouvons des excuses. La nature humaine est en nous, et elle s'oppose à nous. Elle nous résiste. Nous devons la surmonter, mes frères. Nous devons la surmonter. Nous avons vu l'importance de la victoire. Et l'une des choses que nous devons surmonter, c'est nous-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Quelle est l'autre? La société. La société. Vous vous souvenez que j'ai dit que cela vous semblait familier? Soi-même. La société. 1 Jean 5 Verset 4 1 Jean 5 Verset 4 Car tout ce qui est né de Dieu, fait quoi? Vainque le monde. Donc, si vous êtes né de Dieu, vous vainquez le monde. Et voici la victoire qui vainque le monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Le monde, mes frères, c'est la société. La société nous entoure de toutes parts. J'ai mentionné que nous ne pouvons pas échapper à nous-mêmes. Eh bien, il est tout aussi difficile de s'échapper de la société. Nous sommes immergés dans la société. Nous en sommes entourés. L'alternative serait de partir dans le désert et de devenir moine. Ce n'est pas une option réaliste. Nous sommes entourés par la société. Nous sommes entourés par les systèmes de la société, les attitudes, les valeurs, les priorités, les modes de pensée, le fonctionnement de la société. Et ici, dans la culture occidentale, nous en sommes entourés. Mais dans toutes les cultures du monde, où que vous viviez, vous êtes entourés par cette société, par la manière dont les choses se font dans cette partie du monde où vous vivez. Restons ici, dans la première épître de Jean, chapitre 2 1 Jean, chapitre 2. C'est une façon remarquable de décrire la société et les difficultés qu'elle présente. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est donc la société de ce monde qui est décrite ici, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais du monde. La convoitise des yeux, pardon, de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Tout cela est lié à la société. Regardez les publicités, les divertissements, les biens matériels, la convoitise, ces personnes qui convoitent ce que possèdent leurs voisins, prêtent dans bien des cas à tout pour l'obtenir. Mes frères, tout cela, c'est le monde. Parvenez-vous à surmonter ces attitudes, le système qui vous entoure, les valeurs, les priorités, le fait que tout le monde sur votre lieu de travail aille dans une direction, alors que vous devez aller dans une autre. Parvenez-vous à surmonter cela? Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Ce n'est pas facile. C'est simple à comprendre, Mais ce n'est pas facile. Romains chapitre 12. Dieu nous répète sans cesse que nous devons vaincre le monde. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent. Frères et sœurs, si nous ne vainquons pas le monde, si nous nous laissons influencer négativement, nous serons tous influencés par le monde dans une certaine mesure. Notre objectif est de réduire cela au minimum. Évidemment, en ce qui concerne les aspects négatifs. Ce que cela signifie ici, c'est « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Il est difficile de ne pas se conformer à ce monde. Nous sommes en minorité. Il y a tellement plus de gens dans la société qui semblent simplement suivre le courant. Mes frères, nous devons nager à contre-courant. Le monde, la société, ne cesse de nous dire ce qu'est le succès. À quoi ressemble le succès? Qu'il s'agisse d'argent, d'une grande maison, de nombreux jouets, de pouvoir ou d'influence. Tout cela est considéré comme une réussite. Le monde nous dicte ce que nous devrions désirer. Ce que nous devrions vouloir. Ce qui devrait nous divertir. Il va jusqu'à nous dire que nous devrions nous sentir offensés par certaines choses lorsque quelqu'un nous offense ou nous confronte. Nous devrions nous sentir offensés par cela. Le monde nous dicte et tente de nous imposer à quoi devraient ressembler nos relations. Ce qui devrait compter le plus à nos yeux. Mes frères, nous devons résister à ces influences. Nous devons surmonter ces choses. Nous ne pouvons pas laisser le monde dicter ce que doit être notre carrière. Nous ne pouvons pas laisser le monde être ce qui nous pousse vers cela. Nous ne pouvons pas laisser l'argent, les divertissements, les biens matériels ou les pressions sociales compromettre l'opportunité que nous avons de faire quoi? De vaincre et de siéger sur des trônes. De régner sur les nations. Le monde promet de tout nous donner. Tout de suite et dès maintenant. Mais, mes frères, c'est une vision à court terme. Si nous renonçons à notre future souveraineté au profit d'une vision à court terme, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Toutes ces choses. Certaines d'entre elles semblent innocentes à première vue. Certaines proviennent du monde, de la société. Mais le problème, c'est qu'elle écarte Dieu de la place qui lui revient dans nos vies. Elle le relègue au second plan dans nos priorités. Vous devez vous demander, qu'est-ce qui influence le plus ma façon de penser? Est-ce le monde? Ou est-ce la parole de Dieu? Qu'est-ce qui m'influence le plus? Ce n'est pas seulement une question qui s'adresse aux jeunes. C'est une question qui s'adresse aux frères de tous âges, quelle que soit leur situation. Qu'est-ce qui influence le plus ma façon de penser? Est-ce le monde, ou est-ce la parole de Dieu? Nous devons vaincre le monde. Et enfin, il y a Satan. Il y a donc le moi, la société et Satan. Le moi, la société et Satan. Premier épître de Pierre, chapitre 5. Nous devons vaincre Satan. Premier épître de Pierre, chapitre 5. Verset 8. Premier épître de Pierre, chapitre 5. Verset 8. Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, résistez au diable, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont infligées à vos frères dans le monde. Le fait est que Satan s'oppose aux frères partout dans le monde. Son nom, Satan, est bien choisi. Ce nom signifie adversaire. Satan est notre adversaire. Il n'est pas notre ami. Satan n'a pas à cœur notre bien. Il ne souhaite pas que nous progressions dans les choses de Dieu. Il est le Dieu de ce monde, et son but est de nous faire échouer. Il est notre adversaire. Nous portons en nous la nature humaine. Nous sommes entourés par le monde. Et pour couronner le tout, nous avons notre adversaire qui cherche à exploiter à la fois nos faiblesses intérieures et le monde qui nous entoure pour nous pousser à faire ce que nous ne devrions pas faire. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Que devons-nous donc faire? Que devons-nous donc faire face à notre adversaire? Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Que faire? Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Aussi puissant que soit le diable, Dieu est bien plus puissant. Bien sûr, Dieu est plus puissant. Mais réfléchissez-y. Aussi puissant que soit le diable, Dieu est bien plus puissant. Il nous suffit de revêtir l'armure. Si nous nous rendons sur le champ de bataille sans armure, nous n'avons aucune chance. Nous n'avons aucune chance. Pour étayer ce verset, Jacques, rendez-vous au livre de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il n'y a pas de condition particulière. La seule exigence est de résister et de se soumettre à Dieu. Mais si vous faites cela, si vous vous soumettez, mes frères, si nous nous soumettons à Dieu, si nous nous humilions devant Dieu et que nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Il n'aura d'autre choix. Il n'aura d'autre choix. Aussi difficile que cela puisse être, mes frères, nous pouvons vaincre Satan, le Dieu de ce monde. Nous devons vaincre notre propre moi, la société et Satan. Dieu exige que nous nous occupions de ces trois éléments. Mais pourquoi? Pourquoi? Bon. Nous savons que nous devons vaincre ces trois éléments, mais pourquoi? À quoi cela sert-il? Pourquoi Dieu nous oblige-t-il à vaincre ces choses? Pourquoi ne pas simplement les éliminer de nos vies? Nous nous faisons baptiser. Nous devenons chrétiens. Nous y sommes arrivés. Nous avons désormais la puissance de Dieu en nous. Nous comprenons des choses que nous n'avions jamais comprises auparavant. Pourquoi ne pas simplement nous débarrasser de toutes ces choses et nous permettre d'aller de l'avant? Puisque nous reconnaissons Dieu et faisons ce que nous devons faire. Pourquoi nous obliger à vaincre? Mes frères, c'est là le cœur même du message. C'est là l'essentiel. Pourquoi Dieu exige-t-il que nous vainquions? Eh bien, tout d'abord, vaincre forge et révèle notre caractère. Vaincre forge et révèle notre caractère. Restons ici, au chapitre 1 de l'épître de Jacques. Chapitre 1 de l'épître de Jacques. Mes frères. Verset 2. Jacques 1, verset 2. Mes frères, considérez comme une joie complète lorsque vous tombez dans diverses tentations. Sachez ceci, l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est un mot important ici. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, il y a donc une œuvre qui s'accomplit ici. Il y a une action en cours. Afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. Nous voyons donc déjà que ces diverses tentations produisent la patience. Et nous devons laisser ce processus se dérouler. Les épreuves, mes frères, produisent quelque chose en nous. Les épreuves n'ont pas lieu sans raison. Dieu ne veut tout simplement pas nous voir souffrir. Il est notre Père. Il nous aime. Quel parent souhaite voir son enfant souffrir inutilement? Les épreuves ont un but. Elles nous changent. Elles agissent sur nous. Elle nous transforme. Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5. Nous avons vu ce mot produit ici. Revoyons-le. Romains, chapitre 5, verset 3. Romains, chapitre 5, verset 3. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations. Bon, d'accord, attendez un instant. Attendez un instant. Se glorifier dans les tribulations, eh bien, il y a une raison. Il y a une raison. Sachant que la tribulation fait quoi? Produit la patience. Nous retrouvons donc ce mot produit. Les tribulations produisent la patience. Et la patience produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance, et elle fait naître l'espérance en nous. Et l'espérance ne fait pas honte, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui est en nous. Ce travail qui se poursuit. Dieu œuvre en nous. Il façonne notre caractère. Il édifie notre caractère. Nous ne pouvons pas faire l'expérience de la patience ni la développer sans devoir attendre quelque chose. Sinon, cela reste théorique. Oh, je suis très patient, mais vous n'avez jamais eu à attendre quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas développer le courage sans devoir surmonter la peur. Nous ne pouvons pas former ni renforcer la maîtrise de soi sans être tentés et sans que cette maîtrise de soi soit mise à l'épreuve. Nous ne pouvons pas avoir la foi à moins d'être confrontés à l'incertitude. Vous le savez tous. Votre foi se construit lorsque vous êtes dans l'incertitude et que Dieu vient à votre secours. Vous en sortez alors avec une foi plus forte. Nous ne pouvons pas développer la persévérance sans rencontrer de difficultés. Surmonter les épreuves forge le caractère. Mais cela révèle également notre caractère. Deutéronome, chapitre 8. Surmonter les épreuves révèle aussi notre caractère. Cela donne lieu à une sorte de bulletin scolaire, si je puis m'exprimer ainsi. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Deutéronome, chapitre 8. J'ai lu le récit des enfants d'Israël. L'un des versets les plus puissants concernant le dessein de Dieu est ce qu'il accomplit auprès des êtres humains. Il s'est avéré qu'il agissait à travers Israël. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a conduit pendant ces 40 ans dans le désert. Vous avez donc passé 40 ans dans le désert. Le désert représente une période très difficile, qui s'étend sur une longue durée. 40 ans, c'est long. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Quel était le dessein de Dieu? Pour vous rendre humble. Pour vous mettre à l'épreuve. Comment vous en sortez-vous? Comment se présente ce bulletin scolaire? Pour savoir ce qu'il y avait dans votre cœur. Mes frères, nous pouvons nous cacher pendant un court instant. Nous pouvons faire semblant que tout va pour le mieux. Oh, c'est génial! La vie est belle. J'ai une attitude formidable. Je suis proche de Dieu. Tout va pour le mieux. Jusqu'à ce que nous soyons confrontés à des difficultés. Murmurons-nous? Nous plaignons-nous? Cette attitude hypocrite du genre « tout va bien » disparaît-elle soudainement? Lorsque nous rencontrons des difficultés, revenons au verset. Pour savoir si vous respecteriez ses commandements ou non. Allez-vous suivre Dieu ou non? Lorsque les épreuves et les difficultés surviennent, allez-vous obéir à Dieu ou non? Les épreuves et les difficultés révèlent tout cela. Le désert a révélé Israël à lui-même et l'a également révélé à Dieu. Ce qu'il y avait dans leur cœur. La pression a fait ressortir la vérité. La difficulté fait ressortir la vérité. Mes frères, Cela nous arrive à tous. La pression fait éclater les canalisations. Une personne qui entre à l'église est pleine de ferveur. Elle s'efforce de lutter contre l'envie et de ne pas être envieuse, ainsi que contre l'orgueil et la colère. Elle s'en sort à merveille. Dieu accorde une certaine période de lune de miel. Tout va pour le mieux. Vous êtes constamment confronté à certaines épreuves, mais tout va pour le mieux. Vous êtes plein de ferveur. Vous êtes proche de Dieu. Vous étudiez. Vous priez. Puis les circonstances changent. Toutes vos faiblesses recommencent à refaire surface. Vous pourriez vous surprendre, au début, à dire, « Vous savez quoi ? Je suis tellement plus patient qu'avant. » Mais je vous répondrai, « Eh bien, avez-vous dû attendre quelque chose récemment ? Oh, j'ai surmonté l'orgueil. » À quand remonte la dernière fois où vous avez été remis à votre place ? Comment vous en êtes-vous sorti ? Je maîtrise bien mieux mon tempérament qu'auparavant. Quelqu'un vous a-t-il irrité ces derniers temps ? En êtes-vous certain ? Mes frères, nous avons tous des points sensibles qui, lorsqu'ils sont touchés, font réagir. Si ces points n'ont pas été touchés, il nous est très difficile de savoir avec certitude où nous en sommes. Les épreuves ne se contentent pas de révéler notre caractère. Si nous les laissons faire, elles nous aident à forger le caractère dont nous avons besoin pour régner. Alors, au lieu de vous demander pourquoi cela m'arrive-t-il, lorsque vous traversez une épreuve, au lieu de dire pourquoi moi, demandez-vous plutôt, qu'est-ce que cela développe en moi? Que cherche Dieu à développer en moi? Que veut-il que je voie à mon sujet? Sur quel aspect de ma personnalité Dieu agit-il et tente-t-il de m'améliorer lorsque je traverse cette épreuve? C'est une façon bien différente d'envisager les choses. Ainsi, les épreuves, les difficultés et le fait de les surmonter visent tout à développer et à révéler le caractère. C'est le premier point. Mais deuxièmement, le fait de surmonter ces épreuves nous apprend également à nous maîtriser avant de recevoir le pouvoir d'exercer une autorité plus grande. Nous devons donc apprendre à nous maîtriser avant de pouvoir exercer une autorité plus grande. Proverbe, chapitre 16. Proverbe, chapitre 16. Proverbe, chapitre 16, verset 32. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui maîtrise son esprit vaut mieux que celui qui s'empare d'une ville. Prenons maintenant un peu de recul. Imaginez que vous conquériez une ville. Vous vous emparez de cette ville. C'est un lieu bien établi. Il y a des infrastructures. Un gouvernement est en place. Il dispose de tout ce qu'il faut pour faire fonctionner cette ville. La plupart des villes bénéficient d'une forme de protection. Imaginez donc que vous y entriez et que vous la conquériez. Tout ce qu'il faut pour y parvenir. Il faut disposer de certaines connaissances, d'une certaine puissance et de compétences pour pouvoir s'emparer d'une ville. Le fait est que c'est très difficile à réaliser, de s'emparer d'une ville. Eh bien, Dieu dit que se maîtriser soi-même, se gouverner soi-même, est plus difficile que cela, que de s'emparer d'une ville. S'agit-il d'une hyperbole? Non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Se gouverner soi-même, mes frères, est plus difficile, plus exigeant, plus, cela demande plus de force que de conquérir une ville. Se gouverner soi-même est le plus grand exploit des deux. Voilà le fond du propos. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, une personne incapable de se contrôler est très dangereuse lorsqu'on lui confie le contrôle d'autrui. Il faut être capable de se contrôler soi-même avant de se voir offrir la possibilité d'exercer un contrôle sur les autres. Restons ici dans les Proverbes, verset 25, ou chapitre 25, Proverbe 25. Mes frères, ce ne sont pas simplement des contes ou de simples dictons. Ces choses sont vraies. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, 28. Celui qui ne maîtrise pas son esprit est comme une ville en ruine, sans rempart. Une personne qui ne peut pas contrôler son propre esprit n'a pas de gouvernement intérieur. Vous avez tous entendu l'expression, il n'a pas de gouverneur. Il n'a pas de gouverneur. Les gens peuvent s'immiscer, vous contrarier, exercer presque un certain contrôle sur vous si vous ne pouvez pas contrôler votre propre esprit. Vous n'avez aucune protection. Vous êtes vulnérable aux excès émotionnels, aux impulsions, aux appétits, à la colère, à l'orgueil. Toutes ces choses sont mises à nu lorsque vous n'avez pas le contrôle de votre esprit. Cela me fait beaucoup penser à Satan. Il est très impulsif. Il est très puissant, mais il est très impulsif. Rappelez-vous, dans l'Apocalypse, il est dit, « À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. » Vous devez donc être capable de vous vaincre vous-même, de vous maîtriser, d'exercer un plus grand contrôle, pour qu'on vous confie le pouvoir sur les nations. Si nous ne sommes pas capables de nous gouverner nous-mêmes, pourquoi Dieu nous ferait-il confiance pour gouverner les autres? Si nous ne pouvons pas contrôler notre langue, comment pourrons-nous contrôler les autres, diriger des villes? Si nous ne pouvons pas contrôler nos pensées, notre colère, nos appétits, que ce soit en mangeant trop, au sens littéral, ou simplement nos convoitises et nos désirs, si nous ne pouvons pas nous contrôler, si nous ne faisons pas preuve de tempérance, comment pourrait-on nous confier le pouvoir de régner sur les autres? Si nous ne parvenons pas à contrôler la façon dont nous dépensons notre argent, si nous ne faisons pas de budget, nous bafouons les lois financières de Dieu. Nous ne versons pas la dîme. Nous ne faisons pas d'offrande. Nous ne payons pas nos factures, nous ne rangeons pas derrière nous ne nous présentons pas au travail, prêts à travailler. Nous ne prenons pas soin de nos familles, ni de nos espaces personnels. Ces choses peuvent sembler insignifiantes, mes frères, mais elles ne le sont pas. Ce sont des choses importantes. Luc 16. Luc 16. Les petites responsabilités révèlent certaines tendances, mettent en évidence certains schémas. Luc 16. Verset 10. Un principe puissant, Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses, ainsi, si nous sommes fidèles dans les petites choses, celles qui ne semblent pas vraiment avoir d'importance, celles qui ne semblent pas compter. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Donnez-moi le pouvoir sur des villes, je m'en sortirai très bien. Je ne m'occupe d'aucune de ces petites choses, mais si Dieu me donne simplement la ville, s'il me donne l'univers, je le prouverai. Je montrerai à quel point je suis responsable. Cela ne fonctionne pas ainsi. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Frères et sœurs, si nous ne savons pas gérer les petites choses, nous ne pouvons certainement pas gérer les grandes. Matthieu 25. Même principe, mais développé davantage. Matthieu 25. Verset 21. Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Je vais faire quoi ? Je te confierai de nombreuses choses, et tu entreras dans la joie de ton Seigneur. » Nous voyons donc cette fidélité dans les petites choses. Mes frères, La fidélité dans les petites choses de cette vie nous donne l'occasion de régner sur de nombreuses choses. Mes frères, nous allons juger le monde. Nous allons juger les anges. C'est une grande responsabilité. Le pouvoir ne résout pas nos problèmes de caractère. Donnez-moi plus de pouvoir. Donnez-moi plus d'argent et tout ira bien pour moi. Non, non. Le pouvoir met en évidence nos faiblesses. Il ne résout pas nos faiblesses. Une personne colérique dotée d'un peu d'autorité causera un peu de tort. Mais une personne colérique dotée d'une autorité considérable causera d'énormes dégâts. Une personne égoïste dotée d'un peu d'influence, d'accord, aura un effet limité. Mais une personne égoïste dotée d'un grand pouvoir, son égoïsme affectera beaucoup, beaucoup plus de gens. C'est un concept très simple. Dieu ne confie pas à la légère le pouvoir à des personnes qui n'ont pas fait leurs preuves, à des personnes qui n'ont rien surmonté, qui n'ont pas forgé leur caractère, qui n'ont fait preuve d'aucune maîtrise de soi. Tout comme une compagnie aérienne ne confierait pas les commandes d'un avion à un pilote inexpérimenté, les hommes savent qu'il ne faut pas agir ainsi. Dieu, à plus forte raison, ne le fera pas. Avant de pouvoir gouverner les autres, nous devons nous gouverner nous-mêmes. Nous devons vaincre nos propres faiblesses. Vaincre, c'est s'entraîner à exercer le pouvoir. Mais, mes frères, vaincre nous prépare également à aider les autres à vaincre. Ainsi, comme nous l'avons vu, vaincre forge et révèle notre caractère. Cela nous enseigne à nous gouverner nous-mêmes avant de se voir confier une plus grande responsabilité. Et enfin, cela nous prépare à aider les autres à vaincre. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1. Verset 3. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Dieu nous console donc pour que nous puissions faire quoi? Consoler les autres. Dieu veut que nous surmontions les épreuves afin que nous puissions aider les autres à les surmonter. Il ne veut pas que nous gaspillions ce caractère et cette expérience que nous avons acquis tout au long de notre vie. Dieu veut que nous en tirions parti. Ceux qui ont surmonté des épreuves savent ce que cela signifie de les surmonter. Pourquoi les autres rencontrent des difficultés? Pourquoi les autres ont besoin de miséricorde? Surmonter les épreuves nous aide à développer de la patience et de la compassion envers les autres. À développer la sagesse. Si vous avez surmonté des épreuves, si vous et moi avons surmonté un mauvais patron, un patron qui ne nous respecte pas, qui nous prend de haut, et pourtant que nous avons appris à garder une bonne attitude face à ce patron qui ne nous traite pas très bien. Nous avons appris à continuer à faire ce qu'on nous demande, tout en gardant une bonne attitude. Il faut de la sagesse pour y parvenir. Il faut de la perspicacité pour savoir comment s'y prendre et y parvenir. Eh bien, une fois que nous savons comment faire, nous pouvons enseigner aux autres comment s'y prendre. Nous pouvons faire preuve d'empathie envers les autres lorsqu'ils viennent nous dire « Vous savez, j'ai ce patron au travail et il est très difficile. » Nous pouvons répondre « Vous savez, j'ai vécu la même chose. Voici ce que j'ai fait. » « Oui, était-ce difficile ?»« Oui, c'était difficile. » « Mais voici ce que j'ai fait pour surmonter cette situation. » « Eh bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire cela si nous n'avons jamais surmonté cette épreuve, si nous n'y avons jamais été confrontés. Si nous n'avons jamais eu nos finances en pagaille, il y a eu une période dans ma vie où mes finances n'étaient pas toujours au beau fixe. Et ce n'était pas vraiment une question de somme d'argent. C'était simplement le fait de ne pas être responsable, de ne pas établir de budget correctement, de ne pas payer mes factures à temps. Je suis passé par là. Et j'ai dû l'apprendre à la dure. J'ai dû tout reconstruire à partir de zéro. Je me suis lancé avec une jeune famille. La situation financière n'était pas très reluisante. Mais je savais que des personnes comptaient sur moi, qu'elles comptaient sur moi pour diriger mon foyer. J'ai dû trouver des solutions. J'ai dû tout démolir jusqu'aux fondations et tout reconstruire. Et aujourd'hui, vous savez, les choses vont beaucoup, beaucoup mieux. Je peux désormais aider une personne qui rencontre des difficultés. Et je peux me mettre à la place d'une personne qui traverse une période difficile, car je suis passé par là. Et si elle venait à me demander conseil, je pourrais le lui donner, car j'y suis parvenu. Je l'ai surmonté. C'est là l'essentiel. Dieu nous fait traverser cela et nous permet de relever ces défis afin de les surmonter, pour que nous puissions aider les autres à les surmonter à leur tour. Transposez maintenant cela à une échelle plus grande, dans le royaume de Dieu. Il y aura des milliards de personnes qui n'auront aucune idée de ce qu'il faut faire. Eh bien, nous serons en mesure de les aider. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par là. Nous avons été formés. Nous avons mûri. Dieu ne se contente pas de former de puissants dirigeants. Il forme ceux qui savent comment surmonter les épreuves afin qu'ils puissent aider les autres à les surmonter. Christ a suivi le même principe. Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Christ a traversé la même épreuve. Cela constituait une part importante de sa mission. Hébreux, chapitre 4. Verset 15. Hébreux, chapitre 4. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. En d'autres termes, notre souverain sacrificateur peut s'identifier à nous. Nous pouvons nous identifier à lui. Nous n'avons pas ce souverain sacrificateur qui soit si déconnecté, je parle de Christ si déconnecté de nous qu'il ne puisse s'identifier à nous. On pourrait penser, oh là là, c'est Christ. Il ne peut pas s'identifier à nous. Or, le texte nous dit ici que ce n'est pas le cas. Revenons-y, mais qui, en tout point, a été tenté comme nous le sommes, sans commettre de péché. Ainsi, Christ a dû affronter toutes les épreuves que nous avons dû affronter, et pourtant, il a vaincu le péché. Il était proche de nous. Nous pouvons nous identifier à lui. Il peut s'identifier à nous, ce qui est tout aussi important. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ était proche de nous et qu'il a traversé toutes ces épreuves, toutes ces tentations que nous traversons, et qu'il l'a fait sans péché, approchons-nous donc, grâce à cela, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce qui nous aidera au moment où nous en avons besoin. Le fait est que, parce que Christ a vécu ses épreuves, qu'il est proche de nous et qu'il a su les surmonter, nous pouvons désormais nous présenter avec assurance devant Dieu et dire, « Vous savez quoi, Père, vous avez aidé Christ, aidez-moi moi aussi. » Et même si nous ne sommes peut-être pas capables d'être sans péché comme l'était Christ, parce qu'il a traversé tout cela et qu'il est mort pour nous, versant son sang pour la rémission des péchés, nous pouvons nous présenter avec assurance devant Dieu et dire, « Père, aide-moi à vaincre moi aussi, tout comme Christ l'a fait. » Christ a connu la faim, la fatigue, le rejet, l'opposition, la tentation, la douleur, la souffrance. Il a vécu dans le même environnement, mes frères, que celui dans lequel nous vivons. C'était là son but, un but majeur pour lequel il est venu et s'est incarné, Un Dieu qui a toujours existé s'est humilié, s'est incarné. Pourquoi? Afin de pouvoir vaincre cette chair et de nous montrer comment nous pouvons faire de même. Ne passez pas cela à côté de vous, c'est là l'essentiel. C'est là l'essentiel. Christ s'est incarné et a personnellement fait l'expérience de ce qu'est l'obéissance dans des conditions humaines, face aux difficultés et aux épreuves humaines. Il a été tenté par Satan. Il a vaincu le monde. Il a vaincu sa propre chair parce qu'il était dans la chair. Satan, la société et le moi. Christ a vaincu exactement les mêmes choses, mes frères, que celles que nous devons vaincre. Il n'était pas différent. Restons ici dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 8. Bien qu'il fût fils, il a toutefois appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées. Frères et sœurs, souffrez-vous? Eh bien, Christ aussi. Rencontrez-vous des difficultés? Christ aussi. Les choses ne sont-elles pas toujours faciles? Christ peut en dire exactement autant. Verset 9. Et, ayant été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Christ est passé par là. Obéissez-lui, et nous pourrons vaincre tout comme lui. Premier épître de Pierre, chapitre 2. Premier épître de Pierre, chapitre 2. Christ a été un exemple parfait de ce que nous devons faire pour vaincre. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Premier épître de Pierre, 2, 21. Car c'est à cela même que vous avez été appelés. Ce que cela signifie, c'est que vous avez été appelés à ce que je vais vous lire ici. Nous avons tous été appelés à ce que nous allons lire. Car Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Frères et sœurs, ne trouvez pas cela étrange lorsque vous rencontrez des difficultés, lorsque vous traversez des épreuves, lorsque vous êtes confronté à des obstacles qui s'opposent à vous et vous résistent. Ne trouvez pas cela étrange. Nous suivons simplement le même chemin que Jésus-Christ a suivi. Le chemin qu'il a tracé, qu'il a emprunté, nous suivons simplement ce même chemin. C'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens, disciples du Christ. Voilà ce qu'est un chrétien, un disciple du Christ. Christ a triomphé et est ainsi devenu notre sauveur, notre grand prêtre et, surtout, notre exemple. Nous devons marcher sur ses traces. Christ a compris et comprend encore ce combat. Il ne se contente pas de rester en retrait en disant « Bon, suivez-moi, faites ceci et cela », sans avoir jamais traversé ces épreuves lui-même. Non, il les a traversées. Et il a prouvé que la chair n'empêche pas de vaincre. Allons-nous parfois échouer, mes frères et sœurs? Bien sûr, mais Christ a prouvé qu'il n'est pas impossible de vaincre la chair si nous comptons sur Dieu. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé, il l'a démontré. Si nous comptons sur Dieu, nous pouvons vaincre la chair. Nous pouvons vaincre la société. Nous pouvons vaincre Satan. Christ l'a prouvé. Mes frères, nous devons vaincre. Nous pouvons vaincre. Voici trois principes pour nous aider personnellement à vaincre. Ouvrez votre Bible au chapitre 4 de l'Épître de Jacques. Le chapitre 4 de l'Épître de Jacques. Nous l'avons déjà examiné, nous allons le revoir. Chapitre 4 de l'Épître de Jacques. Trois principes pour nous aider à vaincre. Frères et sœurs, pour vaincre, comme vous le verrez en ouvrant votre Bible au chapitre 4 de l'Épître de Jacques, nous devons nous entraîner avant la bataille. Nous devons nous entraîner avant la bataille. Éphésiens, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous qui êtes pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez l'esprit partagé. Vous remarquez donc qu'il nous faut résister au diable et nous approcher de Dieu. Nous ne pouvons pas vaincre par la seule force humaine. Nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons nous approcher de notre Père. Nous échouons souvent, mes frères, parce que nous comptons sur nous-mêmes. Nous commettons des erreurs, nous ne voulons pas aller vers Dieu, nous avons honte. Quelles que soient les excuses que nous invoquons pour ne pas aller vers Dieu, nous essayons de résister par nos propres moyens, et cela ne fonctionne tout simplement pas. Imaginez une personne sur un ring de boxe. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se souviennent de Mike Tyson. Il était champion du monde des poids lourds, très intimidant. Je le cite parce qu'il était sans doute l'un des êtres humains les plus intimidants qui ait jamais foulé la surface de la Terre, vraiment très intimidant. Mais imaginez une personne ordinaire, sans entraînement, qui n'a pratiquement jamais boxé auparavant. Elle a peut-être déjà vu des combats de boxe. Imaginez cette personne montant sur le ring face à Mike Tyson. Quelle chance aurait-elle? Aucune. Elle n'a aucune chance. Mike Tyson s'attaquait à des boxeurs entraînés, qui s'étaient entraînés et avaient boxé pendant des années, qui étaient des champions à part entière, et il les détruisait. Imaginez une personne sans entraînement montant sur le ring face à un champion des poids lourds comme Mike Tyson. Elle n'est pas entraînée, elle n'est pas préparée et elle est dépassée. C'est comme si nous montions sur le ring face à Satan. Sans entraînement, sans aide, et en pensant que nous allons gagner. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Mes frères, nous devons veiller à nous préparer. Nous devons nous préparer. Matthieu 26. Si nous devons monter sur ce ring, ce qui est inévitable, nous devons y monter face à Satan. Nous devons l'affronter. Il est notre adversaire. Nous devons être prêts. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, 41. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Il n'est pas simplement dit, espérez ne pas tomber dans la tentation. Il est dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Frères et sœurs, notre chair est faible. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Enfin, mes frères, que devez-vous faire? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne vous fortifiez pas en vous-même ni dans vos propres compétences et capacités. Non, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Puis il est dit, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Satan n'est pas de taille face à Dieu. Il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. Ainsi, si nous sommes forts dans la puissance du Seigneur et dans sa force, alors tout ira bien pour nous. Comment devenons-nous puissants dans le Seigneur et dans sa force? Cela s'appelle les cinq outils. Les cinq outils. Nous prions. La prière nous aide à devenir forts dans le Seigneur. La puissance de Dieu se manifeste à travers l'étude de la Bible. L'étude de la Bible renforce la foi. La foi est très puissante. Nous nous rapprochons de Dieu lorsque nous jeûnons. Lorsque vous ne mangez pas, vous n'avez vraiment pas grand-chose d'autre à faire que de vous rapprocher de Dieu, surtout si cela fait un certain temps. Le jour des expiations approche. Vous êtes tous passés par là. Mais nous méditons. Nous réfléchissons aux choses de Dieu. Nous nous concentrons sur les choses de Dieu. Nous observons la création physique qui nous entoure, et cela nous rappelle la puissance du Dieu de l'univers. Et nous mettons en pratique l'Esprit de Dieu. Ce sont là autant de moyens, frères, qui nous permettent de compter sur Dieu et d'être forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, et non dans la nôtre. Entraînez-vous avant le combat, pas après que la cloche a sonné. Lorsque nous sommes sur le ring avec Mike Tyson, ce n'est pas de l'entraînement. C'est le combat. C'est parti. Nous devons nous entraîner au préalable. Nous devons nous assurer d'être prêts à l'avance. C'est là tout l'intérêt. C'est pour cela que vous vous entraînez. Vous ne vous entraînez pas une fois que vous êtes en pleine épreuve. Une fois que vous êtes en pleine épreuve, je suppose qu'il ne reste plus qu'à compter sur la chance. Espérons que Mike ne me décapite pas et ne m'assène pas un coup qui me fasse sauter la tête. Vous devez vous entraîner. Vous devez être prêt. Demandez-vous, quelles sont mes faiblesses? Bon, que puis-je faire pour éviter ou minimiser ces faiblesses? Qu'est-ce que je fais qui me conduit à la tentation? Pas une fois que la tentation est là et que vous êtes en plein milieu de l'épreuve. Que fais-je avant? Comment pourrais-je l'éviter? Je ne peux pas attendre d'être en colère pour dire ensuite, vous savez quoi? Je dois vraiment travailler sur ma colère. Eh bien, à ce moment-là, vous y êtes déjà. Vous ne pouvez pas attendre d'être découragé pour dire, vous savez quoi? Je vais me rapprocher de Dieu. Non, il vaut bien mieux l'éviter dès le départ. Ainsi, mes frères, nous devons veiller à nous entraîner avant la bataille afin de l'emporter. Nous devons également nous attaquer à la cause. Aller au cœur du problème, et non pas seulement aux symptômes. Marc, chapitre 7. Marc, chapitre 7. Nous devons aller au cœur du problème, à la cause, et non pas seulement aux symptômes. Marc, chapitre 7, verset 20. Marc, chapitre 7, verset 20. Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est Christ qui parle. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui souille l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, je veux dire, c'est une liste sérieuse. Les vols, la cupidité, la méchanceté, la tromperie, la débauche, le mauvais œil, le blasphème, l'orgueil et la folie. Regardez cette liste, regardez autour de vous dans le monde. Il y a des adultères partout, il y a des voleurs partout, il y a des gens cupides, méchants, trompeurs, qui ont le mauvais œil, qui blasphèment contre Dieu, qui sont pleins d'orgueil et de folie. Dans chaque situation, chez tous ces individus, cela a commencé de l'intérieur, dans leurs pensées. Les pensées ont conduit aux actes. Le message du Christ était d'aller à la source, d'aller plus profondément à la source du problème. Verset 23, toutes ces choses mauvaises viennent de l'intérieur et souillent l'homme. Un mauvais comportement, mes frères, commence à l'intérieur. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Si toutes ces pensées, cette méchanceté, ce mal, toutes les choses figurant sur cette liste, si elles viennent de l'intérieur, que devons-nous faire? Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons en captivité, c'est là l'essentiel, nous amenons en captivité toute pensée à l'obéissance du Christ. Frères et sœurs, Nous devons lutter contre nos pensées, les capturer, les amener et les soumettre, nos pensées, les soumettre au Christ. Nous devons vaincre ces pensées. Les pensées qui ont conduit à cette liste, les pensées que toute personne qui commet les actes de cette liste a eues à un moment donné, nous devons lutter contre elles, les maîtriser et les rendre captives au Christ. C'est cela, vaincre. À première vue, on se dit, bon, je dois cesser de me mettre en colère. Mais si vous voulez aller plus loin, frères et sœurs, nous devons aller plus loin que cela. Il ne s'agit pas simplement de ne pas se mettre en colère. Il s'agit de se demander, eh bien, pourquoi est-ce que je me mets en colère? Qu'est-ce qui me met en colère? Pourquoi ai-je si peu de patience? Qu'y a-t-il au fond de tout cela? S'agit-il d'un ressentiment profondément ancré? Ai-je du mal à accepter de me sentir manqué de respect? Est-ce que j'essaie de contrôler les autres? Suis-je accro au contrôle? Qu'est-ce qui me rend si colérique? Quand cela a-t-il tendance à se produire? Est-ce pendant la journée, la nuit? Quand je suis fatigué? Suis-je frustré simplement parce que les choses ne se passent pas comme je le souhaite? Suis-je simplement insatisfait de la vie en général? Allez au cœur du problème. Oui, la colère est le symptôme, mais quelle en est la cause? Est-ce l'orgueil? Vous savez, les choses devraient se passer comme je le souhaite, et si ce n'est pas le cas, je me mets en colère. Eh bien, il faut travailler sur cet orgueil. Il faut travailler sur l'idée que les choses se passent toujours comme vous le souhaitez. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie. Pour surmonter efficacement un problème, il faut aller au-delà du comportement et travailler sur le caractère qui engendre ce comportement que nous ne souhaitons pas. Lorsque vous commettez une erreur, ne vous contentez pas de vous repentir de cette erreur. Allez au cœur du problème. Pourquoi cela s'est-il produit? Quel schéma a conduit à cela? Mes frères, c'est cela, le véritable sens de la victoire. C'est très tactique. Si vous voulez régner sur des villes, si vous voulez régner sur l'univers, vous devez savoir comment vous y prendre. Nous devons savoir comment nous y prendre. Apprenez donc à aller au cœur du problème, et ne vous contentez pas de traiter le symptôme pour vaincre. Et enfin, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas lorsque cette vieille faiblesse refait surface. Si nous voulons vaincre, nous ne pouvons pas abandonner. Car si vous abandonnez, vous n'avez pas vaincu. C'est le mal qui vous a vaincu. Souvenez-vous, vainquez le mal par le bien. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Si vous abandonnez, c'est le mal qui a triomphé. Nous devons vaincre le mal par le bien. Ouvrez le livre des Proverbes, chapitre 24. Proverbes, chapitre 24. L'un de ces versets, quand on prend le temps de le lire attentivement, est tout à fait fascinant. Proverbes, chapitre 24. Verset 16. Proverbes, chapitre 24, verset 16. Et nous allons prendre le temps de le lire ici. Car un homme juste tombe sept fois. J'ai donc dit que c'était un verset fascinant quand on prend le temps de le lire. Un homme juste tombe. Eh bien, je pensais qu'un homme juste ne tombait pas. Une fois que l'on tombe, on n'est plus juste, pensais-je. C'est ce qu'on pourrait penser. Mais là n'est pas la question. Il est dit, un homme juste tombe sept fois et se relève. Ce qui fait de vous un homme juste, c'est que vous vous êtes relevé. Vous n'avez pas abandonné. Si vous tombez et que vous ne vous relevez pas, vous n'êtes pas juste. Si vous tombez et que vous vous relevez, vous êtes juste. Et pas seulement une fois, mais sept fois, et vous vous relevez à chaque fois. Mais les méchants tomberont dans le malheur. Cette personne méchante ne s'est pas relevée. Elle est tombée dans le malheur, et j'imagine qu'elle est restée allongée là, enfoncée dedans. Un homme juste se relève. C'est une illustration intéressante dont je me souviens avoir lu le récit. Il s'agit d'une personne qui fait tourner des assiettes. Avez-vous déjà vu cela? C'est un peu comme un numéro de cirque, et il y a des gens qui, j'imagine, passent leur vie à perfectionner leur art de faire tourner des assiettes. Mais si vous avez déjà vu cela, vous savez qu'il y a plusieurs piquets, et ces assiettes, et on commence par faire tourner une assiette, et on la fait tourner très, très, très vite. On fait tourner la première assiette, puis on passe à la deuxième. Au deuxième poteau, elle fait tourner la deuxième assiette. La première tourne toujours. Puis la troisième, la quatrième, peut-être la cinquième ou la sixième. Eh bien, au bout d'un moment, alors qu'elle s'occupe de cette sixième ou septième assiette, la première commence à vaciller. Et que fait-elle? Elle revient en courant et recommence à faire tourner cette première assiette. Et il doit gérer toutes ces assiettes qui doivent tourner, en veillant à ce qu'elles ne tombent pas et ne se cassent pas. Eh bien, mes frères et sœurs, notre vie spirituelle ressemble beaucoup à cela. Nous pouvons commencer par travailler sur la colère, et nous nous mettons à faire tourner cette assiette. Oh, je ne vais plus me mettre en colère. Je vais simplement veiller à avoir une bonne attitude, et je vais simplement être patient avec les autres. Puis les choses s'améliorent. Vous faites tourner, 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 et ensuite vous avez l'assiette de l'orgueil, qui tourne, tourne, tourne. Vous faites tourner celle-là. La colère se porte toujours très bien, merci. Vous faites tourner l'orgueil, et, oh, j'ai mon assiette de l'impatience. Je dois commencer à faire tourner celle-là. Et juste au moment où nous passons à la convoitise, la colère commence à vaciller. Cette assiette ne tourne plus aussi bien. Alors on revient en courant. Je croyais avoir surmonté cela, mais il faut s'y remettre. Il faut faire tourner, 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 tourner. Mes frères, la formation du caractère, c'est en grande partie comme cela. On jongle avec différentes assiettes, et on les fait toutes tourner. Et vous savez quoi? À un moment donné, elles vacillent. Eh bien, il faut y retourner et s'y attaquer à nouveau. Nous devons les surmonter. Nous devons toutes les maintenir en mouvement et reconnaître que ce n'est jamais vraiment terminé. Ce n'est pas facile. C'est un défi. Il faut de l'habileté pour y parvenir. Il faut de l'habileté pour y parvenir. La croissance ne signifie pas toujours que le problème disparaît. Parfois, la croissance consiste simplement à reconnaître la faiblesse et à la repérer plus rapidement. Peut-être se repentir plus vite. Au lieu de commettre une erreur et de ne pas vraiment avoir envie de prier à ce sujet parce que vous vous dites « Oh, je me sens mal, et je vais simplement essayer d'y remédier par moi-même. » Eh bien, peut-être que la croissance pourrait simplement consister à se dire « Vous savez quoi ? Dès que je commets une erreur, je me repens immédiatement. » C'est cela, la croissance. Je résiste plus longtemps. Cette tentation, cette chose, m'attire, et avant, j'y cédais. C'est juste que, vous savez quoi? Ça a été plus difficile avant que je ne cède cette fois-ci. Cela ne signifie pas que c'est acceptable, mais c'est de la croissance. Je me tourne vers Dieu plus tôt. Lorsque cette tentation survient, cette chose qui m'attire, vous savez quoi? Je m'arrête, je m'assois et je lis ma Bible. Je sors mon téléphone, j'ouvre mon application Bible et je me rends au verset que j'avais marqué, celui dont j'avais besoin dans ce moment de faiblesse. Je me rends à ce verset et je le lis. Je commets moins d'erreurs, ou alors celles-ci sont moins graves. Mes frères, c'est cela, la progression. Ne confondez pas le combat permanent avec l'échec. Ce n'est pas parce que vous devez continuer à lutter et à vaincre que vous échouez. Non, vous vous battez. Un homme juste tombe sept fois, mais il se relève. C'est ce qui fait de lui un homme juste. Maintenant, nous n'allons pas dehors pour tomber, et tomber exprès. Oh, tant que je me relève. En aucun cas, vous ne voulez tomber. Mais si cela vous arrive, assurez-vous de vous relever. Assurez-vous de vous relever. Mes frères, nous avons commencé par parler de la puissance, et une grande puissance implique davantage de préparation. Il y a des choses très importantes. J'aime utiliser des exemples auxquels nous pouvons tous nous identifier, qu'il s'agisse d'un pilote, d'un chef militaire, d'un astronaute ou d'une personne chargée de la gestion d'une centrale nucléaire, des exemples qui facilitent la compréhension. Ces personnes ne se voient pas confier ce pouvoir et cette responsabilité à la légère. Il en va de même pour Dieu. Mes frères, nous devons savoir comment nous préparer, et la manière de nous préparer consiste à vaincre. Et vaincre, c'est remporter la victoire sur quelque chose qui, autrement, aurait la victoire sur nous. Nous triomphons de Satan, nous triomphons de la société, et c'est très difficile. Néanmoins, nous devons triompher de nous-mêmes. C'est ce triomphe qui forge notre caractère. Il révèle également notre caractère. Triompher nous apprend à nous gouverner nous-mêmes avant de pouvoir exercer une autorité et un contrôle bien plus grand sur les autres. Et triompher nous aide à apprendre comment aider les autres à triompher. Christ l'a fait. Il a triomphé. Il a triomphé en tant qu'être divin incarné dans la chair humaine, avec toutes les limites que cela impliquait. Il a triomphé du monde. Il a triomphé de Satan. Il comprend ce que signifie triompher. Son objectif en triomphant, ou plutôt, l'un de ses principaux objectifs en venant sur cette terre, était de triompher et de nous montrer que c'était possible. Il peut vaincre, et nous le pouvons aussi. Et si nous nous entraînons avant la bataille, avant de monter sur le ring, si nous nous battons pour la cause, si nous allons au cœur du problème et pas seulement aux symptômes, par exemple, pourquoi nous mettons-nous en colère? Pas seulement le fait que nous soyons en colère. Et sans abandonner, bien sûr. Si nous faisons toutes ces choses, mes frères, nous pourrons certainement vaincre nous aussi. Revenons au chapitre 2 de l'Apocalypse. Chapitre 2 de l'Apocalypse. Ce verset devrait vous paraître encore plus percutant à présent. Chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 26. Et celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer. Vaincre avant d'avoir autorité sur les nations, cet ordre n'est pas fortuit. La lutte pour vaincre fait partie de l'entraînement. Chaque fois que nous apprenons à nous gouverner nous-mêmes sous l'autorité de Dieu, nous nous préparons davantage à un gouvernement plus grand, à la souveraineté. La victoire consiste à s'exercer à l'autogouvernance avant que Dieu ne nous confie un gouvernement plus grand. Mes frères, la victoire ne consiste pas simplement à vaincre nos faiblesses aujourd'hui. Dieu nous forme pour le pouvoir de demain.